Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Bonjour à tous, à Kinshasa et en province, plusieurs familles ont des installations sanitaires qui laissent parfois à désirer. L'entretien régulier des toilettes ne se fait pas. Et pourtant, les experts, selon eux, si les installations sanitaires ne sont pas bien entretenues, il y a risque des maladies des mains sales. Quelles sont alors, quelle est l'importance d'entretenir les installations sanitaires familiales en RDC et ailleurs à Kinshasa? Nous allons en parler avec notre invité, Dr Mavar, directeur national de l'hygiène. Dr Mavar, bonjour.
Bonjour encore, madame. Alors, et bonne année.
Oui, bonne année, docteur. Alors, quelle est aujourd'hui l'importance d'entretenir les installations sanitaires à Kinshasa et ailleurs au Congo?
Merci, madame. Je voudrais d'abord commencer par saluer vos auditeurs qui sont à travers le pays. Je voudrais également rappeler juste une chose. C'est au fait, l'hygiène, c'est quoi? C'est au fait un ensemble de mesures qui sont destinées à prévenir les infections et à prévenir l'apparition de maladies. Et vous avez demandé comment est-ce que nous pouvons arriver à prévenir ces maladies. Évidemment, à prévenir ces maladies, évidemment, il faudrait renforcer les mesures d'hygiène. C'est une tautologie, mais au fait, ça vaut la peine qu'il faudrait renforcer les mesures d'hygiène au niveau de l'individu, mais également les mesures d'hygiène au niveau collectif. C'est au fait à ce titre-là. Au niveau des installations sanitaires, évidemment, et les installations, vous savez que c'est au fait les lieux où nous allons déposer, après avoir ingurgé les repas, tout ce que nous avons consommé la journée, c'est au fait les lieux où nous allons déposer, au fait, ces repas-là qui est digéré, qui se transforme en sel. Et normalement, ces endroits-là doivent être des endroits qui sont propres, appropriés. Je dirais qu'une latrine, quand on appelle une latrine hygiénique, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, c'est au fait une latrine qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de mouches, qui n'a pas de matière fécale au sol. C'est au fait là qu'on peut trouver et qu'une personne détient une latrine hygiénique.
Oui, mais curieusement, on constate qu'il y a quand même un problème à Kinshasa et ailleurs au Congo. C'est comme si les gens n'ont pas appris à entretenir leurs toilettes. La plupart des latrines, il faut le reconnaître, sont sales.
Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Madame, je ne vous surprendrai pas parce que vous faites vos recherches. Je vous dirai, par exemple, qu'il y a des communes. À Kinshasa, par exemple, et je suis resté pratiquement responsable de l'hygiène à Kinshasa pendant plus de 5 ans. À Kinshasa, par exemple, il y a des communes comme les communes de Kasavubu. C'est une étude qui a été faite. Et quelle est la moitié des installations sanitaires dans la commune de Kasavubu, il y a de cela 5 ans, la moitié était défectueuse. Et sur la moitié qui était fonctionnelle, qui semblait être fonctionnelle, qui devait être fonctionnelle, donc une autre moitié n'était pas complètement fonctionnelle. Vous comprenez? Donc là, c'est vraiment une préoccupation pour la population.
Mais qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau?
Nous, les services d'hygiène...
Parce qu'avant, il y avait justement les services d'hygiène.
Les services d'hygiène, au fait, c'est un service régulateur. C'est un service qui amène des sensibilisations et c'est un service qui fait la promotion de l'hygiène, c'est vrai. Mais les pratiques sont les pratiques qui sont dans les populations. Aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, comme dans les lieux publics, même à la Gombe, madame, ce n'est pas une discrétion parce que, en fait, tout le monde le voit. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas mettre pied parce qu'il n'y a pas d'installation sanitaire. Oui. Quand bien même ça existerait, mais dans quel état?
Mais à votre niveau, docteur Mavar, est-ce que vous faites un contrôle régulier dans les différents services? Parce que, bon, on ne va pas se limiter seulement dans les maisons des particuliers, mais même dans les services de l'État, dans les écoles publiques et privées. Est-ce que vous faites un contrôle pour vérifier si réellement les toilettes sont entretenues?
Madame, nous faisons un contrôle. Nous avons des inspecteurs qui sont au niveau de la ville de Kinshasa. Plus de 1000 qui sont là. Mais également les problèmes qui étaient là. J'avais soulevé ces problèmes il y a quelques années, c'est au fait le personnel a vieilli. Vous savez, le personnel de l'hygiène, c'est un personnel qui est là depuis les temps coloniaux et qui, les derniers, peut-être, celui qui est en fonction aujourd'hui, date de 19... En fait, il est là depuis 1960. Mmh. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, il a plus de 50 ans dans les services, donc il n'est plus actif. C'est pour lequel on a fait la promotion pour qu'ils viennent dans les services des jeunes sont venus. Mais également, ça n'a pas suivi. Ce qui est vrai, ça n'a pas suivi avec l'appui de l'autorité pour amener ces gens à être formés correctement. Aujourd'hui, je me réjouis par exemple pour la ville de Kinshasa. Quand je vois par exemple l'autorité urbaine, le gouverneur de la ville qui se bat pour mettre en place des structures de gestion des déchets. Mais ce que nous avons toujours fait, c'est au fait, ça c'est une conséquence, mais la cause, on ne s'attaque pas à la cause, on veut nettoyer les rues. Mais quelle est la cause? C'est au fait la sensibilisation de la population. Oui. Moi je pense que c'est à ça que le gouverneur devait commencer, mettre en place son service d'hygiène, travailler avec le service de l'environnement, avec nos collègues de l'environnement, nous formons. Et nous avons déposé un document très stratégique à ce niveau. Un comité de salubrité comprenant la santé et l'environnement pour travailler. Vous voyez, madame, la santé serait en train de passer de maison en maison pour sensibiliser, comme nous le faisons dans le cadre des campagnes de vaccination.
Le personnel a vieilli.
Oui, mais il y a quand même un autre personnel qu'on a recruté. Oui. Mais s'il y a un appui, ne fût-ce qu'un appui substantiel pour qu'on puisse les briefer et les rendre opérationnels.
Mais dites-moi,
ils sont dans les zones de santé, madame.
Docteur Mavard, juste par curiosité, à une certaine époque, nous sommes là dans les années 80, comment vous travaillez concrètement dans le service national de l'hygiène?
Madame, à ce moment-là, la stratégie n'était pas celle d'aujourd'hui. Au niveau du ministère. Ça, nous devons le reconnaître. Mmh. Que la stratégie a beaucoup changé. À ce moment-là, c'est au fait la prévention qui valait. Même à l'époque des Belges, c'est la prévention. Donc, on fait tout pour que la maladie ne vienne pas. On fait la prévention et parmi les éléments de prévention, il y a l'hygiène qui est là, qui va demander aux populations de se protéger et de lutter contre la survenue des maladies.
Mais je me rappelle, évidemment, je me rappelle, docteur Mavard, il y avait quand même des équipes qui passaient dans chaque maison
justement,
pour vérifier si les toilettes étaient bien
justement,
entretenues.
Justement, c'est au fait dans ce cadre de prévention qu'il y a des équipes d'inspecteurs qui passaient dans les maisons pour sensibiliser les ménages, pour corriger un peu là où il y a un peu de petits problèmes, mais aussi pour amener les gens à exécuter ce qu'ils doivent faire de manière correcte.
Aujourd'hui, évidemment, les brigades n'existent plus.
Les brigades existent, mais je vous ai dit tout à l'heure, les brigades existent, mais évidemment, elles ne sont pas appuyées. Ils ne sont pas appuyés, ça c'est vraiment un regret, ils ne sont pas appuyés par l'autorité. Et en tant que responsable de service, nous avons pu mettre en place aujourd'hui des stratégies. Nous avons fini l'élaboration de la politique nationale de l'hygiène. C'est pour permettre qu'on puisse redynamiser ces services, que ces services soient encore opérationnels aujourd'hui. Et madame, je vous assure que si le gouvernement nous appuyait, appuyer les services, je pense que nous ferons mieux. Et au lieu de subir les conséquences de ce qui se passe avec comme maladie, j'ai suivi tout à l'heure les choléras, j'ai suivi tout à l'heure les différentes diarrhées. Quand vous regardez au niveau du ministère de la Santé, quand vous regardez dans les zones de santé, vous allez voir que les maladies qui pullulent au niveau de Kinshasa, ce sont les maladies liées aux mains sales. C'est au fait les maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement des bases.
On rappelle à tous ceux qui nous suivent, appelez au 081-890-63-94 pour poser votre question ou même faire un témoignage là où vous êtes. Docteur Mavard, vous dites que le gouvernement, le gouverneur devrait vous appuyer, mais de quoi avez-vous réellement besoin?
Madame, nous avons besoin, au fait, l'appui ce n'est pas seulement un appui évidemment financier. Quand nous regardons, l'appui financier est très important, mais aussi un accompagnement. Moi, j'ai l'impression que, moi, sincèrement, ça me fait un peu mal, mais j'ai l'impression que l'autorité veut beaucoup se lancer sur les conséquences et les causes, j'ai dit tout à l'heure. Cet appui, évidemment, c'est au fait que nous avons essayé de redynamiser les structures de l'hygiène, mais ça doit être appuyé par l'autorité.
Oui, mais quoi exactement?
Il faudrait les moyens.
C'est-à-dire?
Il faudrait les moyens financiers, mais il faut également les matériels. Vous savez, aujourd'hui, madame, dans cette ville ici, les ménages ne sont plus désinfectés. Vous savez qu'il n'y a pas de pulvérisation intradomiciliaire, parce qu'au fait, le collègue de l'environnement fait peut-être un effort dans les milieux ambiants, mais intradomiciliaire, on ne le fait pas. Madame, vous savez qu'à Kinshasa, par exemple, il y a des tiques, il y a des punaises qui envahissent tout un quartier. Là où il y a des grandes maisons en chaîne, comme à Bandal, comme à Kitambo, comme à Lemba. Donc, les punaises peuvent entrer dans la première maison et ça chemine tout. Donc, c'est indécent. Donc, en fait, il n'y a pas d'appui.
Vous faites une belle description, là. Peut-être que Rachel Ndjounjou à Isiro, en province orientale, aimerait vous compléter. On va la retrouver dans un instant.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
L'entretien régulier des toilettes, nous en parlons aujourd'hui. Est-ce que vous le faites chez vous, à la maison, là où vous nous suivez? Docteur Mavar est là justement pour mieux vous informer là-dessus. Mais on va d'abord retrouver Rachel Ndjounjou qui nous a appelé depuis Isiro en province orientale. Rachel, bonjour.
Allô, bonjour.
Alors Rachel, quelle est votre question?
Oui, j'ai une question à poser à l'invité. Mais avant de la poser, j'aimerais aussi répondre à votre question que vous n'avez pas posée si on le faisait chez nous. Mais je dirais oui. Moi, je dirais par exemple, moi, je l'ai fait chez nous à la maison. Je n'attends pas que quelqu'un puisse venir me dire d'entretenir la toilette ou comment. Et c'est ce que j'aimerais aussi dire à tout le monde. C'est pas quand même, vraiment, c'est quand même de but qu'on puisse répéter cette question chaque fois à la radio, d'entretenir vos toilettes. Tout le monde sait que si la toilette restait saleté, donc ça causera beaucoup de maladies. Mmh. Alors, il ne faut pas être l'ennemi de soi-même. Il faut prendre cette conscience-là de bien attention. Avant que vous puissiez venir vous dire de les faire.
Oui.
Alors, voici ma question.
Allez-y.
Je vais demander à l'invité. Quand est-ce qu'il parlera alors de comment construire les toilettes? Parce qu'il y a des fois, nous voyons des toilettes qui sont souvent construites. Donc, la toilette, là, même si on la reconnaît, ça resterait toujours mal propre. Comment vraiment, quand est-ce qu'elle parlera aux gens de leur dire comment on peut construire une toilette? Parce qu'il y a des toilettes qui sont construites souvent dans des mauvaises conditions.
Merci beaucoup Rachel pour votre question. On va passer directement à Rosalie Mboula à Kinshasa. Rosalie, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, j'avais une petite question à poser à notre invité du jour. Je voulais savoir si on voit déjà qu'il travaille dans des bureaux des jeunes et il y a des canaux qui sont placés en dessous des toilettes et les gens l'hygiène là ne s'occupe même pas à contrôler tout ça. Il y a des déchets des toilettes là qui descendent là où il y a des sources d'eau. Alors, je voulais demander à l'invité si quel est le travail de ces gens qui travaillent dans des hygiènes pour ne pas contrôler tout ça.
Merci beaucoup. On revient donc à notre invité, Dr Mavar, directeur national de l'hygiène. Vous avez suivi deux questions, Rachel et Rosalie. Des questions pertinentes. Alors, quelle est votre réaction?
Je remercie d'abord vos auditrices qui sont vraiment très très attendues et très assidues à ces informations. Pour Rachel, je dirais carrément que au fait comment construire une latrine, et évidemment les normes de construction d'une latrine, on les fait au niveau du ministère des TPAT. Au fait, c'est lui qui nous accompagne, l'habitat qui nous accompagne. Mais les différentes sortes de latrines que nous connaissons aujourd'hui que le colloque peut construire, c'est au fait des latrines. On peut construire des latrines. Et évidemment, il y a plusieurs types de latrines d'abord. Il y a ce qu'on appelle les latrines sèches qui sont utilisées sans eau. Et évidemment, sans eau pour l'évacuation des excrétats. Bon, l'eau peut être utilisée, mais en fait, ce sont les latrines sans eau. Deuxièmement, c'est au fait les types de latrines VIP. Les latrines VIP, c'est au fait des latrines sèches, mais qui répondent aux exigences de la qualité, en particulier qui sont occupées d'un conduit qui va permettre l'aération. L'aération protégée et à laquelle on met des dalles. Bon, il y a un autre type de latrine, il y a des latrines à siphon, tout ça qu'on peut trouver. Mais couramment, ce que nous trouvons dans les ménages, c'est quoi? C'est au fait des latrines que la population construit, selon les normes, ils construisent sur un trou de 3 à 4 mètres, parce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus au-delà, on ne sait pas à quel niveau se situerait la nappe, et au-dessus, avec des dimensions de 60 ou de 1 mètre, et sur lesquels on fait monter l'abri pour protéger contre les intempéries parce que quelqu'un ne peut pas utiliser. La latrine peut être dans la maison, donc ce qui est courant dans nos villes, mais elle peut être également à côté de la maison. Pour des latrines qui sont, qu'on appelle les fosses arabes, évidemment.
Les latrines turques.
Turques, voilà. Turque, oui. Voilà, ils sont là et la personne peut utiliser les moyens de chasser l'eau, tout ça. Mais il y a des latrines qu'on appelle également avec entraînement, ça va jusqu'au niveau des fosses septiques. À ce niveau-là, il n'y a pas que la latrine qui doit être bien protégée, mais également les fosses septiques. Et quand vous regardez les fosses septiques aujourd'hui, madame, c'est vrai que ça pose des problèmes.
Il y a beaucoup de problèmes. Hein.
Il y a beaucoup de problèmes.
Et je reviens à ce que Rachel vous a posé comme question, parce qu'on l'a dit, on ne sent pas le rôle réel du service d'hygiène. Vous avez parlé tout à l'heure du manque de moyens, le personnel qui a vieilli. Donc finalement, c'est un service qui ne devrait même plus exister, puisque
madame,
déjà il n'existe plus.
Les services existent.
Non, mais il n'est plus opérationnel.
Le service est, je dirais, à 50% opérationnel. C'est pour cela que nous sollicitons l'autorité provinciale. Parce qu'au fait, les problèmes de l'hygiène, les problèmes, c'est au fait un problème provincial. Beaucoup plus un problème provincial. Au niveau national, nous avons élaboré les textes, nous avons élaboré les lois et nous avons envoyé les vers les provinces. Mmh. Nous aurons voulu que, à Kinshasa par exemple, que le numéro 1 de la province, de la ville de Kinshasa, les premiers d'entre eux qu'on appelle le gouverneur Kimbuta, qu'ils puissent également mettre les moyens pour organiser les services des jeunes comme on organise les services de l'environnement. Équiper ces services avec le matériel, avec les fumigateurs. Madame, j'étais très touché quand j'ai vu, par exemple, nos collègues de l'environnement ont des matériels de fumigation alors qu'ils n'en conservent pas. Et nous en cherchons. Donc vraiment, là, c'est vraiment un problème. Je pense que l'autorité me suit. Mais également au niveau de la population, et il faut continuer à sensibiliser la population pour permettre à la population d'adopter des comportements positifs.
Une chose est certaine, c'est que la plupart des gens à Kinshasa et ailleurs ont ce qu'on appelle communément des kikoso, n'est-ce pas?
Oui.
Ce sont des semblants de toilettes.
Des semblants de toilettes qu'on voit, mais oui, qui ne sont pas hygiéniques, qui ne sont pas entretenues, et au fait qui exposent les populations. Vous voyez, les choléras, ça se trouve dans les selles, dans les matières fécales. Que ce soit les caniveaux ouverts, lorsqu'on dévie par exemple les fosses septiques vers les caniveaux ouverts, donc on déverse les matières fécales vers les caniveaux ouverts aujourd'hui. Donc, au fait, quand vous regardez les grands caniveaux, heureusement que le gouverneur de la ville de Kinshasa, là je le félicite vraiment, qu'il a fait quand même un curage pour permettre qu'il y ait une diminution des cas de choléra. Mais ça
pleut,
se trouve dans les matières fécales,
oui,
c'est
et
vrai.
Et lorsqu'il pleut, bon nombre évacue, on le sait.
Ça aussi.
On a fait plusieurs fois des reportages là-dessus.
Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ils évacuent. Et ça c'est une infraction parce que c'est vraiment exposer les populations au risque que vraiment incommensurable.
On va donner encore une fois la parole aux auditeurs parce qu'ils nous complètent par rapport à ce que nous sommes en train de dire dans ce studio. Albert Mwananga à Kananga au Kasaï Occidental et Centurion Maimbu à Kananga au Kasaï Occidental également. On va d'abord donner la parole à Albert. Albert, vous avez une question ou une proposition à faire? Peut-être un complément d'information.
Bonjour madame la journaliste, bonjour à notre invité.
Bonjour.
À tous les auditeurs de la radio Capi. J'ai deux petites questions à poser à notre invité. La première est celle de savoir, est-ce que c'est possible de mettre en place dans l'ensemble du pays la stratégie de la démolition des mauvaises installations dont la province de Katanga est en train d'appliquer à ceux qui ne veulent pas vraiment entretenir leur toilette? Est-ce que c'est possible? Parce que moi, je vois que c'est une bonne stratégie. Il faudrait vraiment mettre en place pour qu'on puisse arriver à entretenir les toilettes. C'est ce que moi je fais. Est-ce que c'est possible? Cette stratégie, c'est peut-être envisageable au niveau du ministère de la Santé.
Mais quelle est...
Ça, c'est la première question.
Oui, mais oui? Juste une précision, Albert. Quel est le constat que vous avez fait chez vous à Kananga? Faites-nous une petite description. Hein? Mais...
Bien sûr, ici, il y a des toilettes, disons qu'en sachet ou quoi. Donc, il n'y a pas de bonnes installations là chez les uns. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais il y a des exceptions toujours. Il n'y a pas de bonnes toilettes chez les uns.
Donc, la plupart des gens recourent au sachet à Kananga.
Non, ce n'est pas en sachet, mais les toilettes vraiment construites avec des sacs, tout ça, ce n'est pas du tout bien.
Okay.
Ça, c'est la première question, madame la journaliste.
Allez-y.
Oui, la deuxième, pourquoi les services de contrôle ont remarqué auparavant, les services de contrôle passaient à chaque maison, contrôlaient s'il y a une mauvaise installation. On afflige les amendes là-dessus. Et on obligeait les gens même d'entretenir leurs toilettes. Mais pour ces derniers temps, madame la journaliste, remarque plus vraiment ces services-là.
Mm.
Et moi, je me reposais là-dessus la question, est-ce que ces services existent? Ou si oui, quel est son impact sur le plan social et tout concernant la santé? Quel
Merci.
Est son impact si ces services?
Merci beaucoup, Albert. On passe directement à Ceinturion Maïmbou. Ceinturion, on vous écoute.
Ok, merci bien. Moi, je trouve que les responsabilités sont partagées. D'abord, du côté de la population. Je regrette du fait que jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle, on parle des toilettes de l'hygiène. Les populations, d'abord, doivent se prendre en charge. Je donne un cas, par exemple, à l'internat où je vis. Vous trouverez des gens utiliser des latrines sans eau. Ça, c'est vraiment terrible. Est-ce que le gouvernement peut descendre dans des quartiers, à l'internat ou dans des universités pour aménager ou arranger des toilettes? Ça, je trouve que c'est pratiquement impossible. Donc, la population doit d'abord se prendre en charge, prouver de quoi elle est capable de la propreté. Et du côté gouvernement, mais quand même, à l'époque de Mobutu, on trouvait que l'hygiène descendait dans des quartiers. On trouve quelqu'un qui n'a pas de toilettes, soit de latrine propre, on l'arrête et on lui paye des amendes. Mais actuellement, ça ne se fait pas. Les agents de l'État n'attendent que les salaires à la fin du mois et ne font rien sur terrain. Moi, je trouve que la grande responsabilité incombe surtout à la population.
Merci beaucoup, Saint-Carion.
Il y a des quartiers où vous trouverez des gens dans une parcelle plus de 50, mais ils utilisent une toilette et une toilette de 1 mètre de hauteur. Ça, c'est trop ridicule.
S'il vous plaît, on va donner aussi la parole. On a suivi, hein, et notre invité se fera un plaisir de répondre à vos questions. Jerry Mido, dans le Bandundu, on vous écoute également.
Bonjour madame, et bonne année à vous et à l'invité. Bon, j'ai des questions à poser à l'invité.
Allez-y rapidement.
Bon, nous, souvent, nous utilisons des toilettes que nous faisons et tout. Là, on met des bois, là, on utilise directement. Bon, je ne sais pas, je peux poser la question à l'invité. Comment est-ce qu'on peut entretenir ça? Combien de fois par an ou bien par mois on peut entretenir ça?
Les toilettes turques, hein?
Des préoccupations. Souvent dans des écoles primaires ou secondaires, là, on a mis des toilettes à disposition des élèves, là. Mais vous voyez, les élèves partent aux toilettes au lieu de faire les caca dans les trous qui se trouvent là. Tant des élèves, si vous voyez dans les toilettes ou bien dans les hôpitaux, vous voyez des caca qui se trouvent là. Donc,
on a compris, hein. On a compris votre préoccupation, Jerry. On passe directement à Soupi Nyembo à Kalima, au Maniema, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent et c'est bien. Continuez à le faire au 081 890 63 94. Soupi Nyembo, vous avez la parole.
Oui, bonjour Nicole, bonjour à tout le monde. Je voudrais demander à notre invité, parce que ce sujet est vraiment relatif. Ici, chez nous, on voit de certaines parcelles qui n'ont pas vraiment de toilettes. Ils s'attendent même avant de se faire baigner, il faut que l'ombre soit pendant la nuit pour qu'il fait des choses à la maison parce qu'il n'y a pas de toilettes.
Mm.
Et d'autres parcelles qui ont des toilettes, madame, se demandent pourquoi seulement la famille qui a des enfants et puis qui a aussi des adultes, leur toilette a beaucoup de caca. Pour terminer, madame, je demande, est-ce que pourquoi seulement les toilettes qui sont à des écoles sont tellement salées?
Mmh.
Voilà, je vous remercie.
Merci, Soupi Nyembo. Simon Mani, je crois que vous êtes le dernier à intervenir pour cette première partie de notre émission. Vous êtes à Issirou, en province orientale.
Oui, bonjour, Radio Capitaine. C'est Simon Mali, technicien de la radio Botte à Issirou.
Allez-y.
Oui, madame, j'avais une petite préoccupation. On constate ici dans des écoles, il y a des toilettes trop sales vraiment. Alors, les services d'hygiène, quel est leur service? À la fin des comptes, il va demander l'argent à la gouvernement pour les payer.
Ok, on a suivi votre intervention, Simon, et on va donner la parole au docteur Mavard en tant que directeur national de l'hygiène. Mais avant cela, on va passer plutôt à Berry Luchaka, parce que Berry reçoit également les auditeurs, mais cette fois-ci à travers le site d'Okapi Service.
Bien sûr, sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Nicole, bonjour et bonjour au docteur. Alors, nous avons là plusieurs réactions. Vous savez, sur la page Facebook, il y a beaucoup de gens qui postent aussi des commentaires. Nous avons eu à peu près 200 personnes qui ont lu la publication de ce sujet. Et nous avons tiré quelques réactions, comme celle de Fika Fidel, qui est sûrement au Kasaï occidental, qui dit que les services de l'État appropriés dans les services de l'État sont censés faire leur travail normalement. Denis Womar, il pense que c'est la révolution de la modernité que prend le gouvernement, d'un air assez comique, mais il dit que nous devons apprendre à être sérieux par rapport à nous-mêmes, parce que c'est vraiment ridicule. Kwiwasisa Kusakana propose d'abord la création d'un service de maintenance et ensuite conscientiser les utilisateurs, car leur santé en dépend aussi. Mimi Nkulu pense que c'est une question d'éducation de base, parce que les gens mettent beaucoup plus d'importance à arranger le salon au lieu d'arranger le petit coin. Voilà les quelques réactions que nous avons pu retenir pour vous.
Merci beaucoup, Berry, et merci à tous ceux qui ont réagi. On va directement donner la parole à notre invité, Dr Mavard.
Oui, il y avait une intervention du collègue, je pense, de Kananga, qui a parlé, est-ce que c'est possible de mettre en place, de démolir, parce qu'ils sont en train de le faire. Nous, j'ai suivi à la radio. Oui, c'est possible d'amener les gens à changer les comportements, à construire des bonnes toilettes et des toilettes qui respectent les normes. C'est bien de démolir, mais il ne faut pas démolir pour laisser les gens faire la défécation à l'air libre.
Il y en a
c'est beaucoup plus grave.
Font, hein. Vous l'avez
et
suivi.
Les provinces du Kasaï aujourd'hui, quand nous regardons dans les différents rapports sanitaires, sont faites parmi les provinces où les taux de défécation à l'air libre est élevé. Donc, pour ceux qui ont fait, il ne faut pas détruire d'emblée. Il faut les amener à faire des toilettes avec les normes, qui respectent les normes, qu'il n'y ait pas de matière fécale, tout ça.
Et là, vous rejoignez Ceinturium, qui nous a dit que les latrines avec eau, curieusement, ce sont des latrines sans eau.
Oui, évidemment. Et l'autre préoccupation, c'est ça. C'est au fait, on peut avoir des latrines avec eau, mais évidemment, il n'y a pas l'approvisionnement d'eau.
Oui.
Évidemment, à ce moment-là, nous sensibilisons les ménages. Comme les collègues tout à l'heure venaient de parler, c'est au fait un problème de culture, un problème aussi au niveau des ménages, que les parents puissent sensibiliser les enfants, puissent eux-mêmes prendre des mesures de telle façon que les toilettes, les sanitaires doivent être propres. Et les élèves, les enfants doivent régulièrement utiliser les toilettes. Après avoir utilisé les toilettes, chasser l'eau. Oui. S'il n'y a pas d'eau, évidemment, nous nous disons toujours qu'il faudrait avoir ne fût-ce qu'une petite quantité d'eau pour amener là-bas.
Docteur Mavard, vous dites une chose intéressante, il faut avoir de l'eau au quotidien, mais on sait qu'à Kinshasa et ailleurs au Congo, il y a ce problème d'approvisionnement en eau, hein, un peu partout dans le pays. Il y a des coupures d'eau et dans les écoles, c'est encore pire parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour résoudre ce problème?
Je pense que pour les écoles, il y a des autorités scolaires qui sont là-bas. Ils doivent faire un effort pour approvisionner, en fait, les centres, les milieux scolaires en eau potable. Si ce n'est pas l'eau potable, évidemment, mais ils doivent avoir l'eau pour permettre à ce que... Aujourd'hui, je pense qu'avec un peu d'effort, chaque école peut disposer d'une source d'approvisionnement en eau, soit à partir des réseaux publics, soit à partir d'un réseau interne. C'est pour permettre à ce que tout ce qui est comme service, qui doivent utiliser l'eau, puissent l'utiliser. Et là, c'est possible, parce qu'au fait, avec ce que nous faisons, dans le cadre du programme École et Village Assaini, nous amenons les responsables de l'école à avoir un point d'eau pour que les élèves puissent utiliser cette eau. Et c'est possible. Ailleurs, on recueille même l'eau. On fait des impluviums et on recueille l'eau pour permettre à ce que les élèves puissent utiliser au niveau des toilettes.
On va être un peu plus précis, hein. On va cibler quelques écoles de Kinshasa, en prenant le cas de lycée Bosangani, collège Boboto, les Loupio. Comment ces écoles peuvent-elles s'organiser pour avoir un point d'eau? Ça peut être où exactement?
Non, normalement, ces écoles, il y a l'électricité, il y a l'eau. Ça, on ne peut pas s'en dire. Ce sont les écoles qui se trouvent dans la ville. C'est au fait de faire un effort pour ces autorités scolaires d'entrer en contact avec les services qui peuvent approvisionner l'école à nous. Il n'y a pas une école comme Boboto, Elikia et les autres, lycée Motemampiko, qui manquent l'eau. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas priver les élèves de l'eau potable. C'est inadmissible. Je pense que ce sont les autorités scolaires. Et là, ce n'est pas le rôle de l'État, mais beaucoup plus l'organisation interne de ces structures scolaires qui doivent chercher à approvisionner l'eau. Et d'en mettre également au niveau des toilettes. Au niveau des toilettes pour permettre aux élèves d'utiliser. Madame, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le lavage des mains. Parce qu'au fait, c'est bien d'aller déféquer et déposer les matières fécales.
Mais il faut se laver les mains après.
Mais il faut se laver les mains.
Mmh.
Et si on ne le fait pas avec du savon ou avec la cendre, nous aujourd'hui, nous avons des études qui montrent que la cendre peut également avoir des effets germicides qui peut également utiliser. Mais dans les villes, donc vraiment, il faut une nécessité d'avoir l'eau potable, l'eau courante, et puis utiliser les savons.
Juste une dernière précision par rapport à la question posée par Jerry Mido. Les toilettes, il a parlé des toilettes qu'on appelle communément les toilettes turques, hein, les toilettes avec un trou à l'intérieur.
Mmh.
Comment on peut les entretenir, ces toilettes-là? Parce que souvent, ce n'est pas entretenu. Hein.
Oui, merci. Au fait, l'entretien des toilettes ne doit pas préoccuper. Au fait, c'est une préoccupation des ménagères, des mamans. Nous le savons que cette tâche-là, le papa ne le fait pas, mais on veut être la maman. La maman doit, normalement, désinfecter la toilette. Vous voyez, quand la toilette est en dehors de la maison, c'est un peu éloigné. Si on ne sait pas trouver, par exemple, les désinfectants nécessaires pour... Il faut d'abord l'eau, il faut des désinfectants, et il faut peut-être une brosse. La brosse dure pour permettre à ce qu'on puisse nettoyer le trou tout autour de la toilette et empêcher ainsi les mouches d'entrer. Parce que
d'eau.
Le grand problème,
oui.
Et puis rincer avec l'eau,
un
faire
peu
partir...
Un peu de savon.
Un peu de... Ça, c'est à l'intérieur. Maintenant, lorsqu'on aura nettoyé, entretenu, évidemment, avec les désinfectants, on peut ajouter parfois des désodorisants. Et au sortir, il faudrait qu'il y ait un dispositif de lavage des mains pour permettre à l'enfant qui va entrer, qui va sortir, de se laver directement les mains au savon ou à la cendre et d'être ainsi propre.
Docteur Mavard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes le directeur national de l'hygiène dans la RDC, hein, je crois, à travers le pays. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, madame.